avait un chinois qui mangeait son riz du bout des dents, rêvant chaque fois qu'il serait heureux dans peu de temps. De fil en aiguille, il s'amouracha de la jolie fille d'un gros potentat. Il lui a dit, viens toujours en chinois, viens faire un tour sur le sac à lin qu'on appelle aussi le fleuve amour. De fil en aiguille, il fut présenté à toute la famille de sa bien-aimée.
André Rimbourg, dit Bourville, est né en France le 27 juillet 1917 et mort le 23 septembre 1968.
Je file en aiguille, un quart d'heure après, toute la famille s'est mise à danser. Le gros potentat disait, cela fait bien des années que je n'avais pas perdu 3 kilos à m'amuser. De fil en aiguille, le petit chinois épousa la fille du gros potentat. Dans le palais qu'il habite depuis ce jour-là, il a fait graver la moralité tcha-tcha-tcha-tcha. De fil en aiguille, tout peut s'arranger. Les garçons, les filles sont faits pour s'aimer, sont faits pour s'aimer, sont
Dès son jeune âge, il anime des fêtes familiales, banquets et kermesses, et intègre la fanfare de son village, dans laquelle il joue de l'harmonica, de l'accordéon et du cornet à piston. Il y reprend les chansons de Fernandel, son idole, qu'il rencontrera en 1937 au cirque de Rouen. À son tour, il décide de devenir artiste.
Si toutes les larmes qui sont nées à Paris, si toutes les larmes essuyées à Paris pouvaient tomber en pluie, alors la Seine en une nuit, la Seine alors déborderait et Paris se noierait. Oui, mais moi je me dis, quand je vois dans tes yeux quelques larmes, c'est Paris qui peut-être a choisi ces yeux-là pour y verser des larmes de joie. Si tous les sourires qui sont nés à Paris, si tous les sourires envolés à Paris illuminaient le ciel sous la chaleur de ce soleil et dont l'amour a le secret, Paris brûlerait.
Après la capitulation de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, il exerce de nombreux petits métiers à Paris, tout en poursuivant sa carrière musicale dans des cabarets et des music-halls. Il se crée le personnage du comique paysan, naïf, en rabattant sa frange sur le front et en s'affublant d'un pantalon noir et d'une veste étriquée. En 1942, il adopte pour nom artistique celui du village natal de sa mère, Bourville.
Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ça qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons.
C'est avec les crayons que sa carrière débute vraiment en 1945, et avec laquelle il fait sa première apparition au cinéma dans La ferme du pendu de Jean Dréville. En 1956, il est engagé par Claude Antan-Lara dans le film « La traversée de Paris », où il montre toute la palette de son jeu d'acteur. Inoubliable, la scène avec Jean Gabin et Louis de Funès.
C'est la rue, là, hein?
Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça soit?
Eh oui, la rue Poliveau.
Quoi, la rue Poliveau?
Ben quoi? Il y a pas de mal à habiter la rue Poliveau, c'est une petite, petite rue. On peut dire le patron?
Ah non, non, non! Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein? C'est la rue Pic.
Rue de Pic? Vous m'aviez dit rue du Temps.
Ouais, bah ça fait pas une grosse différence. Oh.
Deux bornes.
Oh, toi, maintenant, ferme-la, hein? Question à faire, c'est moi qui ai la parole.
Écoutez, patron, faudrait s'entendre. Si c'est à Montmartre, vous donnez combien?
C'est bon, je vous donne 50 francs de plus, mais grouillez-vous, hein?
Oh, mais je demande pas l'aumône. Pour Montmartre, ce sera 600 francs par an, mon bonsoir.
Ah, je vois ce que c'est, vous voulez profiter de la situation?
Profiter? Se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue Lepic? Se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites?
Et les souliers qu'on use, le tout au pas de chasseur, en plein noir, 6 kilomètres?
Oui.
Ouais, pas, je te demande rien, hein?
C'est bon, disons 400 francs.
Oh, mais à ce prix-là, chercher des clochards, moi je suis un homme.
Ça va, je fais un effort, 450 francs. 900 francs pour les deux, hein?
On est poète ou on ne l'est pas? Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Pour un poète, il n'est qu'un but, charmer les muses avec son luth. Pour faire des vers, faut du papier, et puis savoir compter ses pieds. Bien entendu, passer de là, on est poète ou on ne l'est pas. Pour écrire un vers, ce n'est qu'un jeu, mais pour rimer, c'est ennuyeux. Il en faut deux. Et dans un poème, à quel malheur, comme il en faut toujours plusieurs. C'est du labeur. Il y a des rimes féminines qui sont des mots masculins, et des rimes masculines qui sont des mots féminins. Ainsi, ainsi, en poésie, un homme est féminin. On est poète ou on ne l'est pas? Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Pour un poète, il n'est qu'un but, charmer les muses avec son luth. Lorsque j'écris, le nez au vent, une balade en me promenant, je mets le pied où il ne faut pas. On est poète ou on ne l'est pas. On est poète ou on ne l'est pas. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Pour un poète, il n'est qu'un but, charmer les muses avec son luth. Je suis poète, et c'est pourquoi, machinalement, toutes les fois que je m'en vais à bicyclette, sur mon vélo, je fais pouet, pouet. Poète, poète, on est poète ou on ne l'est pas. Pouet, 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 on est poète, pouet, 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 ou on ne l'est pas.
Dans la cinquantaine de films qu'il a tournés, le comique de Bourvil repose principalement sur des rôles de gentil, parfois un peu bête ou naïf. Il a cependant joué des personnages plus dramatiques, comme l'homme à tout faire dans L'Arbre de Noël. Et comment ne pas mentionner l'odieux Thénardier qu'il interprète dans Les Misérables, ou encore le commissaire de police dans Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, avec Alain Delon et Yves Montand.
On peut dire que vous êtes une bonne ordure.
Chut. Outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. N'aggrave pas ton cas. Je le sais bien, je t'ai fait emballer bidon pour tes clients et ton personnel, dans le seul souci de te rendre service. Assieds-toi bien. Voilà, santé. Je t'ai dit hier soir à quel prix je ne voudrais pas la mort du pêcheur. Et il n'y aura pas d'amendement à mon projet. S'il le faut, toutes les semaines, tu viendras passer 2 jours ici en garde à vue. Tiens, dis-le à ton avocat, malgré que j'ai le droit de t'en empêcher. Et téléphone à ton barman de t'apporter tes repas jusqu'à demain soir. Tout le monde le saura dans ta boîte, et ta réputation ne souffrira pas de ma visite.
Vous m'avez dit hier soir que même si je n'avais pas la mentalité d'un indicateur, vous alliez m'obliger à vous aider. Je crois que vous commettez là une énorme erreur de psychologie. Rien ne peut modifier la nature profonde d'un homme. Je ne téléphonerai ni à mon avocat ni à mon barman. Je ne suis pas un indicateur.
Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Si ces mots-là vous viennent du cœur, ils porteront bonheur. C'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour. Je connais des Jules et leurs rombières qui jouent les ducs et les barons et qui se coiffent à coups de soupière dès qu'ils discutent à la maison. Puis font entendre le vocabulaire crevard, fouilleux, fesse de merlan. Puis gueulent comme ça l'année entière, mais ils se murmurent au jour de l'an. Bonne année, bonne santé, chère âme. Ma coccinelle, mon gros poupou, mon minet, mon loulou. Jure-moi que sans mon amour, tu ne pourrais pas vivre un jour. Bonne année, bonne santé. Mais le drame, c'est que pendant tous les jours suivants, jusqu'à l'autre jour de l'an, ils se redisent tendrement, tordus, punaises et peaux d'aran. Dans tous les coins de la planète, il y a toujours la joie des parents, que les gosses pieds nus et en liquette viennent embrasser au jour de l'an. Et si la vie a peu de sourire, on la supporte allègrement, tant que l'on peut s'entendre dire bonne année, papa et maman. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver.
Bonne année,
bonne santé, messieurs, dames. Et souhaitons que dans 100 ans, on puisse comme à présent se redire de tout cœur tous nos meilleurs vœux de bonheur.
Bonne année.
C'est précisément peu après la fin du tournage du Cercle Rouge que Bourvil s'éteint à l'âge de 53 ans, le 23 septembre 1970 à Paris. La tendresse, écrite en 1963 par Noël Roux avec la musique d'Hubert Giraud, a immortalisé sans aucun doute ce grand artiste qu'a été Bourvil pour plusieurs générations qui l'ont vu sur le grand écran ou sur scène. Toujours un sourire aux lèvres. La tendresse.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours.